Chapitre 12e. Père Anthony se leva, non sans effort, du fauteuil où il méditait. Sa longue taille courbée montrait la fatigue de plusieurs nuits sans repos. S'appuyant d'une main au meuble, il fit quelques pas au-devant de la visiteuse et s'inclina tant qu'il put. Toutefois, on sentait une ironie mal contenue dans ses paroles quand il dit « Voilà un honneur inespéré pour un pauvre coureur de cachet de mon espèce. Madame la marquise daignera-t-elle s'asseoir sous mon humble toit ?» Madame de Fonlus prit sans répondre le siège offert, et pendant une minute, elle considéra le vieillard respectueusement debout devant elle, puis ses yeux firent le tour de la pièce très pauvre, d'une éclatante propreté. « De grâce, murmura-t-elle, asseyez-vous. » Il prit un tabouret de bois, son mobilier ne renfermant qu'un seul fauteuil, et le front caché dans sa main droite, il attendit que la grande dame lui parlât. Elle fit cette question, d'une voix qui ne ressemblait guère à celle que lui connaissait le monde. « Depuis quand êtes-vous ici ?»« Depuis qu'un mot, terrible dans sa vérité, m'a fait voir ma folie. Ce mot, c'est vous qui l'avez prononcé. Vous m'avez dit un jour, il faut disparaître de ma vie. N'ai-je pas bien obéi ? J'ai disparu du monde vivant tout entier. Vous pensez que j'étais mort, avouez-le, et vous pensez peut-être, cela vaut mieux pour lui. « Oh non !» gémit-elle. « Comment aurais-je pu croire que... « Que c'était si sérieux ?» Père Anthony se leva et se mit à marcher dans la pièce, comme si tout à coup il eût retrouvé ses jambes. « Par Dieu ! » s'écria-t-il. « Je sais bien que vous ne l'avez pas cru. L'amour pour vous et vos pareils n'est qu'un art d'agrément, comme la musique. Ce qui est sérieux, c'est l'argent, c'est la situation mondaine, c'est la réputation. Tout cela, je l'ai perdu à cause de vous, et pour garder tout cela, vous m'avez chassé d'un signe. Voilà, entre nous deux, la différence. » Mais du pauvre petit professeur ou de la riche demoiselle, qui vous paraît le plus digne d'être estimé ? Pardonnez-moi, soupira la marquise, mais que pouvais-je faire ? Qu'attendiez-vous ? Il s'arrêta devant elle et répéta, en l'enveloppant d'un de ses regards qui voit en arrière, ce que j'attendais, moi. Je vous respectais comme une reine, et j'avais dans le cœur toute la poésie de mes 25 ans, toute la flamme du soleil de mon pays, toute la sublime ignorance du pauvre mendiant que j'étais. Vous me demandez ce que j'attendais ? Rien de plus que le bonheur de vous voir presque chaque jour, de rencontrer, plus souvent qu'il n'aurait fallu, vos yeux interrogeant les miens de leurs défis superbes. Il me semblait que ma vie entière allait se passer ainsi, et je fus sans doute alors le plus heureux des hommes. Devant vous, il fallait que ma bouche restât fermée, et ne le fût-elle pas toujours ? Mais par la voix de l'art, je pouvais vous dire mon secret, je le criais de toutes mes forces. Dites que vous ne me compreniez pas ? Dites que vous n'avez point encouragé ma folie, sans prononcer une parole. C'était pittoresque, ce roman, et si peu dangereux. Madame de Fonlus répondit toujours avec la même voix humble. Vous parliez de votre âge tout à l'heure. Moi, j'avais 18 ans. Ma mère n'était plus là. Mon père s'occupait de moi surtout pour me gâter. Et j'étais lancé déjà dans un monde où les exemples que j'avais sous les yeux n'étaient pas ceux de la prudence. Vous-même, d'ailleurs, y passiez votre vie, attiré, choyé partout. Voyons. « Répondez à votre tour. Étais-je la seule à vous traiter autrement qu'un professeur ordinaire ? Je ne me souviens plus des autres. Que m'importait leur coquetterie ? Elles n'étaient rien pour moi, que des élèves plus ou moins zélés. Mais dans vos seules mains, il me semblait avoir la couronne de l'art. Dans les autres salons, j'allais pour gagner ma vie. Chez votre père, je cherchais la suprême récompense du regard humide de vos yeux, du frisson de vos épaules effleurées par la caresse divine du génie. » Alors, comme si ce n'était pas assez, il vous a pris fantaisie de me traiter en ami. Ah, cette amitié, que Dieu vous la pardonne. Sont-ils encore debout, ces grands arbres de la villa de Meudon, qui firent passer bien souvent votre beauté et ma folie, lorsque la leçon terminée, vous m'accompagniez à la grille? Reconnaissez-vous cet étui odieux que j'ai maudit alors plus d'une fois? Sans lui, aurais-je eu la force de me taire toujours? Mais un homme ne peut pas faire certains aveux la main gauche sur son cœur quand il tient une boîte à violon de la droite. Et vous, créature impitoyable, qui sait si vous n'aviez point deviné cela et résolu de tenter l'épreuve quand vous m'avez dit un jour « Laissez-moi porter le magique instrument qui chante si bien de si belles choses. » Madame de Fonlus ne répondit pas, mais sa main restée belle toucha la poignée de cuivre. « Je reconnais l'étui, » dit-elle, à demi-souriante. Et hier soir, j'ai reconnu le génie de mon maître dans cette mélodie ciselée pour moi, que je ne croyais guère entendre à cette heure et dans ce lieu. Le maître, qui avait repris sa promenade fiévreuse, de nouveau s'arrêta, et les yeux fixés sur l'horizon bleu de la mer, il dit « C'était aussi un soir, dans le salon de votre père. Ensemble, nous avions joué, on nous avait applaudi ensemble. Un jeune homme se leva et déclama des vers, si je vous le disais pourtant. Mes yeux vous le dirent, aussi longtemps qu'il parla. Dans les roses de votre bouquet, vous aviez un sourire étrange. Quand la poésie fut achevée, un signe de votre paupière m'appela. Je suis sûr, mon cher professeur, que vous feriez de fort belles musiques là-dessus. Cette nuit-là, ma tête n'a pas touché l'oreiller. Je ciselais le bijou, comme vous dites, cruel bijou que les vôtres en vérité. » Maître, demanda la marquise d'une voix très douce, vous a-t-on dit qu'hier soir, en écoutant la mélodie, j'ai failli mourir ? Il tourna la tête vers la marquise et répondit par cette autre question qui trembla sur ses lèvres. Vous a-t-on dit qu'un homme est resté sous vos fenêtres jusqu'à l'heure tardive où tout s'est éteint ? Vous avez fait cela ? S'écria-t-elle émue jusqu'aux larmes. Bon, fit-il en souriant, je l'ai fait plus d'une fois. Quand nous étions plus jeunes, je peux vous le dire maintenant. « Adieu, » gémit-elle accablée. « Quel suicide vous avez commis, pourquoi ?»« Parce qu'un jour, devant le pauvre artiste dont vous étiez la lumière, votre seuil s'est fermé. Sans doute, une amie, vous avez prévenu que vous deveniez ridicule et qu'un futur, parfois assez farouche d'amitié semblable. Comme en une minute, mes yeux se sont ouverts, comme j'ai ri, la honte au front de mon grotesque personnage. » Le rire n'a pas duré longtemps. J'ai voulu me remettre au travail. À quoi bon ? Devenir célèbre ? Et puis après, seriez-vous redevenu ce que vous étiez pour moi ? Déjà, quand j'entrais dans un salon où j'avais l'assurance de ne pas vous trouver, je surprenais des mines froides chez les mères, des regards moqueurs chez les filles. Il aurait fallu engager la lutte, conquérir une place parmi les maîtres fameux, ramener à mes pieds cette foule si prompte à se dresser des idoles. Quelque chose me disait que je l'aurais pu. Le courage m'a manqué. Toute mon énergie s'est concentrée dans un désir, me cacher pour toujours dans cette maison où je suis né, comme une bête blessée qui vient mourir au gîte. Je meurs depuis 30 ans. Mes compatriotes me plaignent avec un peu de raillerie pour mes ambitions trompées, mais que m'importe. Je vis parmi eux presque sans les connaître. Pardonnez-moi, répéta la marquise. Voilà ma vieillesse troublée pour toujours, si j'avais su. Qu'auriez-vous fait ? Que feriez-vous si c'était à recommencer ? La même chose. Le monde est toujours le monde, et vous êtes toujours la mondaine sacrifiant tout pour lui, foulant aux pieds, pour parvenir à votre but, le cœur des autres, même des cœurs plus dignes de pitié que celui d'un pauvre professeur de musique sorti l'on ne sait d'où. Madame de Fonlus bondit dans son fauteuil, les sourcils froncés, avec un reste de la hauteur impérieuse d'autrefois. Elle demanda, les yeux fixés sur Père Antony, « Que voulez-vous dire ?» Que vous assistez impassible depuis 6 mois au martyre de 2 êtres. L'un est votre fils, l'autre est une enfant à qui vous seriez fier de tendre les bras si elle était riche. Il s'aime, comme j'ai aimé quelqu'un, et vous attendez, espérant que le marquis de Fonlus commettra une mauvaise action, qu'il y aura ici-bas une oubliée de plus. Voilà ce que je veux dire. Et voilà votre vengeance. Vous vous êtes allié à mon fils contre sa mère en lui révélant les secrets du passé ? Non. Car je suis resté le petit joueur de violon qui serait mort, et qui est mort en effet, plutôt que de vous déplaire. Votre fils m'a confié sa peine sans me connaître. Je ne lui ai pas dit que je vous connaissais. Allez, je garderai mon humble rôle jusqu'à la fin, désormais bien proche, et ce sera très doux d'achever de vivre et d'expirer entre ces murs qui vous ont vu. Miséricorde de Dieu, pensez que c'est vous qui êtes assise dans ce pauvre fauteuil, vous, vous. » Il s'arrêta, ne pouvant plus parler, mais ses yeux noirs, toujours très jeunes, se remplissaient hâtivement de l'image qu'ils allaient garder jusqu'au jour où quelques mains charitables rabaisseraient sur eux les paupières froides. « Ce n'est plus moi, mon pauvre père Antony, » dit madame de Fonlus en secouant la tête. « Ne me regardez pas ainsi, car vous me feriez regretter la jeunesse. Comme vous êtes jeune encore, vous, et comme je suis vieille. Cependant, j'ai vécu tranquille, sans chagrin, sans privation, tandis que votre existence n'a été qu'une longue amertume. Et un long amour, c'est le secret de ma jeunesse. Vous, je le devine rien qu'à vous voir, vous n'avez jamais aimé. Ah, je vous plains. vous quitterez ce monde sans connaître le prix de la vie, sans connaître même une heure comme celle-ci. Pour la fortune que j'aurais pu avoir, je ne la donnerais pas. Hélas, pour vous rendre ce que vous avez perdu à cause de moi, Dieu sait ce que je donnerais, le croyez-vous ?
Non, fit Père Anthony avec un sourire triste, car d'un mot, vous pouvez me dédommager de tout dans la personne d'une autre, et ce mot, vous ne voulez pas le dire.
Oui, l'amour heureux, l'avenir assuré, l'honneur de nom enviable, tout cela, vous pourriez le donner d'un mot à une douce créature qui en est digne. Et votre fils vous remercierait à genoux de vous être laissé fléchir, et moi je vous dirais, nous sommes quittes. La marquise resta silencieuse, les mains croisées sur ses genoux, les yeux fixés devant elle avec une expression d'angoisse qui trahissait la suprême lutte. Elle répondit enfin, « Vous ne connaissez pas cette jeune fille. »
« Non, mais je connais Bertrand de Fonlus. Il sera dans son genre un autre Père Anthony. Ne trouvez-vous pas qu'un seul peut suffire ?»«
Et s'il s'est trompé, s'il a mal placé son enthousiasme, alors nous serons deux à l'empêcher de faire une folie. Je vous le jure, vous savez sur quoi. Mais vous n'avez rien examiné. Elle était pauvre. Qu'importaient toutes les vertus du monde ? Ah, vous ne soupçonnez pas combien votre fils est malheureux, ni ce que va durer son malheur. »
« Ne l'avez-vous donc jamais vu pleurer ?»«
Non, » dit-elle assez durement, « il ne m'aime pas assez pour me laisser voir ses larmes. N'aimeriez-vous pas mieux voir sa joie ?»
Madame de Fonlus quitta son fauteuil, le retour vers le passé l'avait vaincue.
« Écoutez, » dit-elle, « demain, nous nous mettrons en route pour regagner la France. Je m'informerai. Si mademoiselle de Frézol mérite d'être ma fille, elle le sera, je vous l'affirme. »
Pauvre enfant. Vous l'appelez votre fille, et dans vos yeux je vois qu'elle sera toujours votre ennemie. Un cœur sans tendresse.
Mon cœur ignorait la tendresse, oui. Mais il vient de l'apprendre, en une seule leçon. Par un élan inattendu, avec une résurrection soudaine de grâce très jeune, elle tendit au vieillard des violettes qu'une mendiante avait lancées dans sa voiture. Puis, avec le même geste qu'elle avait autrefois quand son professeur s'éloignait, l'heure finie, « Prenez votre cachet, monsieur Père Anthony. Je vais bien travailler jusqu'à la prochaine fois. » À ces mots, elle se dirigea vers la porte, sans que le maître du logis pût la reconduire, car il pleurait tout bas, le visage caché dans ses mains amaigries. Ils ne se revirent que deux mois après, au château de Fonlus, où l'artiste était venu, tout exprès pour toucher de l'orgue à une messe nuptiale. Les mariés partirent vers le soir pour l'Italie. Du moins, voilà ce que crurent les invités et ce que racontèrent les journaux. Suzanne, avant de monter en voiture, fut étouffée de baisers par sa mère, cela va sans dire. La marquise ne l'embrassa qu'une fois, mais ce baiser valait de l'or en barre et Père Anthony, qui surveillait tout, fit un signe à son ancien élève comme pour lui dire « C'est bien, je suis content de vous. » Bertrand, l'affreux hypocrite, répétait depuis une demi-heure « Nous allons manquer le train !»
« J'espère bien, » dit le vieil artiste, « que vous ferez une station à Bordighera où je serai la semaine prochaine. »«
Parbleu !» s'écria le jeune marié. En même temps, il entraîna son fidèle ami à l'écart et lui dit tout bas, « L'Italie où nous allons est une petite chaumière cachée dans les bois à deux lieues d'ici et qui se nomme les Brettes. Mais c'est un secret connu de vous seul. Dans deux ou trois jours, vous recevrez un émissaire chargé de vous y conduire. Jusque-là, restez à Fonlus et par-dessus tout, ne nous trahissez pas. »
« Ah, les heureux !» soupira Père Anthony, les yeux fixés sur la voiture qui s'éloignait.
Il s'écoula plus d'une semaine avant qu'il ne fût mandé aux Brettes, en grand mystère. Mais il ne parut pas froissé de ce retard, qu'il avait prévu sans doute. Il alla vers ceux qui l'appelaient. Une fois avant de mourir, ce grand cœur connu chez les autres. L'amour triomphant est couronné. Le lendemain, il retournait à son ermitage et à ses souvenirs désormais embellis par un rayon. Tel on voit un long jour de pluie s'achever dans la gloire tardive, inespérée, d'un Occident radieux. Ainsi s'achève Fonlus de Léon de Tinsault.